Et bonjour tout le monde. C'est dimanche et le dimanche j'ai le droit à ma carte blanche en quelque sorte. J'ai le droit d'aller un petit peu raisonner un peu plus loin que la communication, le marketing, le SEO, la rédaction web et tout ce qui va avec. Donc si c'est ça ce qui vous intéressait comme sujet, il y a beaucoup d'autres épisodes qui couvrent les 3-4 dernières années. Donc allez-y, foncez. Là, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un concept qui m'intéresse. Je ne sais pas trop encore où ça va nous amener de réfléchir à ça, mais j'ai envie de faire des connexions autour d'un commentaire qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui. Ça tourne autour d'un livre qui vient de sortir aux États-Unis. J'ai lu une interview de son auteur tout à l'heure, et le livre, alors j'aurai pas la référence, je suis désolé, mais ça concerne une analyse des GAFAM et des réseaux sociaux aujourd'hui, avec des questionnements sur finalement, en fait, sont-ils aussi géniaux que ça, sont-ils vraiment au service de l'humanité, qu'est-ce qui va pas par rapport à ça, etc. Et c'était remarquablement intéressant parce que ça a amené des perspectives nouvelles pour questionner les réseaux sociaux. Par exemple, il y a des constatations aujourd'hui qui sont un peu dérangeantes, je crois, qui sont que quasiment personne aime les réseaux sociaux, en fait. On y va parce qu'on a peur d'être exclu. On y va parce qu'on a du temps à perdre. Mais si vous vous souvenez d'il y a 5 ans, 10 ans, quand on a commencé avec les réseaux sociaux, vous allez peut-être vous souvenir de ces vrais moments qui ont eu lieu autour de vos anniversaires, autour de vos événements, autour de grandes nouvelles que vous avez apprises, comment vous avez retrouvé tel ou tel ami, les soirées que vous avez organisées, les apéros auxquels vous avez participé, les événements, etc. Il y avait énormément de choses qui nourrissaient tout le tissu social. Et puis, les réseaux sociaux ont eu envie de gagner plus d'argent. Alors ils étaient aussi un peu, il y a eu des moments de déclin, et puis on a aussi été un peu bêtes. On est parti vers des choses plus divertissantes, et ils ont entendu que on allait ne plus s'intéresser à eux. Sauf que moi c'est vrai que l'expérience que j'ai, le sujet c'est pas tant que ça les réseaux sociaux, mais je démarre là-dessus. L'expérience que moi je fais des réseaux sociaux, c'est vraiment ça fait longtemps que j'y raconte plus ma vie. Mais vraiment plus du tout. Je vis plein de trucs, hein, personnellement, mais si vous me suivez sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, vous ne savez rien de ma vie. C'est comme ça. Parce que juste, on m'a assez sensibilisé avec le fait que c'était plus mes informations une fois que je les avais données au réseau social. Et puis, on m'a aussi beaucoup sanctionné de parler de choses qui n'intéressaient pas les gens, ou pas assez. Donc, par exemple, je ne sais pas, parler d'un plat que j'ai bien aimé, d'une recette de cuisine, d'une personne que j'ai vue, et puis juste envie de partager un petit peu ça, on a un like. Et puis, Facebook nous dit, ton post n'est pas assez intéressant, donc je ne l'ai pas partagé avec tous tes amis. Parce que maintenant, Facebook, quand vous publiez un truc, 100% de votre liste d'amis ne le voit pas. C'est seulement un petit pourcentage. Il a identifié les thèmes des posts que vous sortez, et il va les donner uniquement aux gens qui réagissent à ça. Donc c'est très décevant. Quand on a 100, 150 amis qui sont des gens qui nous connaissent, qui nous aiment bien et qui ont envie d'avoir des nouvelles de nous, ils savent rien. Dernièrement, je me suis rendu compte de ça et j'ai fait le tour des gens que j'aime et que je vois moins souvent en ce moment. En fait, il y avait plein de posts que j'ai ratés qui parlaient de leur vie. Donc, quoi? À côté de ça, Facebook s'est dit que ça serait bien de nous rajouter les stories, les trucs comme ça. Donc maintenant, je suis... Et puis les reels, les espèces de reels, là, les trucs qui sont inhérents à TikTok, où il s'est dit que ça serait bien de mettre à côté du repas végétarien et de la bonne franquette, de la petite bouteille de rosée, un gros plat de cocaïne pour que tout le monde puisse vraiment bien se droguer Et ça, je pense que c'est leur plus grosse erreur. Facebook, Instagram, c'est devenu de la drogue. Au même titre que TikTok, c'est devenu de la drogue. Mais TikTok a l'avantage de dire « je suis de la cocaïne ». Les autres, ils étaient autre chose. Instagram, par exemple, alors moi, je ne l'ai pas connu à cette époque-là, mais Instagram, c'était vraiment un réseau où les gens prenaient des photos de leur vie, de ce qui se passait, et ils les partageaient avec des gens qui les connaissaient. Donc c'était super, parce qu'il y avait quelque chose de très intime à passer par la photographie. C'était très séduisant. Et donc les gens faisaient des photos de plus en plus belles. On a quand même, je sais plus si c'est les iPhones ou je sais plus qui a créé le selfie pour répondre à ce besoin de se mettre en scène dans le réseau Instagram, pour les gens qui nous connaissent, bien sûr. Ce genre de choses. Bonjour, monsieur. Et Instagram a décidé que finalement, ça n'engageait pas suffisamment. Alors, déjà, Instagram a été racheté par Facebook. Et ça, j'avais lu quelque chose qui m'avait choqué, deux choses qui m'avaient choqué. La première, c'est que les créateurs d'Instagram souffrent, témoignent d'une souffrance de voir la perversion complète, le pervertissement plutôt complet qui a eu lieu sur l'application Instagram, qui était quelque chose qui était vraiment lié famille, partage, art, succès, les gens étaient encouragés, c'était un beau réseau social quoi. Et aujourd'hui c'est vraiment un truc qui vous balance de la news pour obtenir des likes et des machins, et qui a optimisé tout ce bordel là. Et la deuxième chose qui m'a choqué, c'est que Instagram représente quasiment un tiers des bénéfices de Facebook. Un tiers. On aurait pu penser que Facebook, WhatsApp, tout ça, en fait, c'était des grosses machines. Non, non, Instagram tout seul poutre littéralement un tiers des bénéfices. C'est colossal. Donc le fric est bien là. Ils ont rajouté des boutiques, ils ont rajouté des pages de vente, ils ont rajouté, etc. Et ils travaillent encore les stories pour que ça soit encore plus sexy, encore plus machin. Bon. Finalement, nous, on n'y est plus. Enfin, on n'y est plus. Si, on y est toujours. On est toujours sur ces réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, on produit de moins en moins. Je ne vois quasiment jamais de post aujourd'hui de gens qui parlent d'eux. Peut-être que pour vous aussi, j'en sais rien. Mais voilà. Bonjour. Bonjour. Et c'est là le cœur de mon sujet que j'atteins gentiment à 8 minutes. Mais je trouve que c'est un contexte important parce que c'est le point de départ. Le point de départ de ce livre est le point de départ finalement d'un raisonnement bien plus profond. Le point de départ, c'est de dire quels sont nos pouvoirs concernant l'exploitation de nos données ou la pénétration de ces réseaux sociaux dans nos vies, ou tout simplement les droits que ces gens ont. Est-ce que Facebook n'est pas trop grand? Est-ce qu'on ne pourrait pas les contraindre à des choses, etc. Et la réponse est non. Non, on ne peut pas. En tant que consommateur, on ne peut pas. Mais c'est justement là le point de départ du raisonnement qui, moi, m'a beaucoup plu et qui germe en moi, qui grandit en moi et qui m'amène à changer mon regard progressivement. C'est qu'en fait, le consommateur ne peut rien faire contre Facebook parce que Facebook le tient, tout simplement. Il tient ses amis en otage. Vous avez déjà peut-être arrêté d'aller sur les réseaux sociaux et vous avez raté un anniversaire, raté un mariage, raté un événement parce qu'il était organisé sur les réseaux sociaux et pas avec vous, parce que vous n'y étiez pas. Moi, j'ai un souvenir d'un ami que j'ai perdu parce qu'il a décidé d'arrêter Facebook. Et d'un coup, il n'était plus là et j'étais triste parce que je ne le voyais plus. Et j'ai arrêté de le voir alors que c'était un de mes amis les plus proches. On était à distance à ce moment-là, mais on partageait beaucoup. Et d'un coup, il n'était plus là. Et ça, c'est un énorme pouvoir. Il possède le lieu public. Le public qu'on veut, dans lequel on veut être pour participer. Donc, il y a une dépendance. Et puis, en plus, il nous gave. Et puis, voilà, ils nous rajoutent des machins, ils nous disent « Oui, ben désormais, vous allez avoir, je ne sais pas, les vidéos en plein écran sur Instagram. Là, on a rajouté un bouton de reel, on a fait ci, on a fait ça. Et on ne peut rien faire parce qu'on est des consommateurs, c'est tout. On consomme les choses. Apple fait un appareil en 10 ans qui fait du greenwashing. Enfin, que son appareil est écolo et machin. Et on ne peut rien faire contre ça. C'est pas nous, ça ne nous appartient pas. C'est eux qui décident. C'est eux qui font les choses. Eux, ils essayent de nous plaire, mais en même temps, ils essayent de nous rendre dépendants. On a vu Microsoft qui a fait émerger, qui a fait leaker un truc phénoménal. Ils ont paumé d'une manière totalement stupide. Ils ont paumé le document peut-être le plus précieux de leur entreprise, à savoir concernant les Xbox, les 10 prochaines années de développement. Y compris les jeux vidéo, y compris les consoles, y compris les stratégies, etc. etc. C'est fou. En fait, il y a un procès et Microsoft a dû mettre des documents à jour, les présenter à la loi et ils ont eu le droit de caviarder, donc de masquer les informations qui ne correspondaient pas à, aux besoins du procès. Et ils ont masqué tout un document, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait des pièces jointes intégrées à ce document qui contenait un PowerPoint de, je sais pas, une cinquantaine de pages qui expliquait toute la stratégie en détail. Et là, on retrouve des choses là-dedans de l'ordre de l'interconnectivité, empêcher l'interopérabilité, c'est-à-dire empêcher qu'on puisse jouer sur d'autres appareils que ceux que Xbox a choisi spécifiquement. On découvre aussi que Facebook, alors pas dans ces documents-là, mais dans d'autres documents qui ont leaké, on découvre que Facebook a une stratégie pour empêcher tous les débats autour de l'interopérabilité, c'est-à-dire vous avez un compte sur Facebook, ben vous pouvez aller sur Twitter avec ou sur WhatsApp ou voilà, des choses qui feraient que vous n'êtes plus captif, vous n'êtes plus obligé d'y aller. Toutes ces choses-là ont été empêchées, c'est-à-dire le consommateur qu'on est ne peut pas faire ça. Et donc on est coincé dans cette théorie de dire, ben, puisque je consomme, je n'ai rien le droit de dire. Les gens qui vous disent, mais si ça ne te plaît pas, va-t'en, alors, sans se rendre compte qu'on parle d'une dépendance technologique. On ne peut pas s'en aller de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de LinkedIn. On ne peut pas si on veut continuer à travailler parce que c'est ce qu'on appelle le Dasein en médiologie, c'est-à-dire l'endroit où on doit être parce que c'est l'endroit où se passent les choses. C'est là où il y a des choses qui arrivent. Je ne sais pas, la dernière fois que j'étais sur LinkedIn, j'ai vu une vidéo se lancer. C'était Laurent Bourelli qui avait décidé de faire le point par rapport à un événement qui venait de se passer. Et c'était un live, et je l'ai regardé avec plaisir. Et ben, ça n'existe pas ailleurs que sur LinkedIn. Alors peut-être qu'ils diffusent ailleurs, mais les réseaux sociaux, c'est la place principale où tout le monde est. Et on peut très rapidement ne plus être informé, ou ne plus être en contact, ou ne plus rencontrer, ne plus être nourri, si on n'est pas à ces endroits-là. Donc on dépend de ces endroits-là. Et là où l'interopérabilité nous permettrait d'en échapper et de dire, ben, je ne sais pas, par exemple, l'auteur du livre disait qu'il y avait une application qui était sortie qui permettait de voir les photos Instagram, mais sans publicité et sans que l'algorithme choisisse quel ordre, quelle photo et compagnie, et qu'en fait, on peut les avoir par ordre chronologique, tranquillement, et consommer ça sans passion, en quelque sorte, mais avec intérêt. Et bien sûr, Instagram a porté plainte et a gagné le procès, ce qui fait que l'application non seulement était fermée, mais les créateurs se sont retrouvés avec des dettes énormes. Donc, histoire de faire une bonne punition à tous ceux qui veulent prendre les informations qui appartiennent à Instagram, mais qui appartiennent surtout à nous. Mais on les a données, donc on est des consommateurs, donc on ne peut pas aller plus loin et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bref, des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Et on est vraiment dans la position du consommateur, dans l'incapacité de faire les choses. Et puis, l'iPhone 15 est sorti. Alors, je sais, vous allez me dire, oh là là, David, non, attendez, attendez, bougez pas, j'arrive. L'iPhone 15 est sorti et l'iPhone 15, la grande nouveauté de l'iPhone 15, si je puis dire. Ah, j'ai plus de chien. La grande nouveauté de l'iPhone 15, c'est un port USB-C. USB type C. Et ce port USB type C, moi, il me fascine. Je veux dire, et je trouve qu'il réveille les consciences. Il est très intéressant, ce port. Il fait exactement la même chose que le port d'avant. Il va aussi vite et il offre aucun autre avantage. Voilà. Mais il est commun aux Android et aux ordinateurs et à plein d'autres appareils aujourd'hui. Il est commun, le port USB-C est commun. Et c'est très intéressant parce que, en fait, Apple ne voulait pas être commun. Mais l'Europe lui a dit d'aller se faire foutre. L'Europe lui a dit, attends, on paye, non? Et puis, tu veux venir sur notre marché? Tu veux vendre tes produits? Eh bien, tu vas te conformer un peu à ce que nous, on a comme vision de ce que devrait être la consommation. Et c'est bien parce que, par exemple, j'ai vu que les iPhone 15 Pro qui viennent de sortir avaient une technologie de fou furieux. Ah, là, voilà. Allez, cours. Allez, hop. Une technologie de fou furieux dans le domaine du jeu vidéo. Mais vraiment, je veux dire, ils font du ray tracing, ils balancent de la 4K, enfin, c'est ouf. Et donc, il y a des gens qui ont dit, ben attends, si je prends l'iPhone 15 Pro, qui est donc fou furieux en termes de puissance de jeu vidéo, et que je le branche avec le port USB type C sur un écran, et que je branche une manette de jeu en Bluetooth, parce que les manettes de jeu, les principales, sont compatibles, eh ben, il a transformé une télévision, en fait, son iPhone est devenu une console de jeu. Parce que c'est compatible, parce que ce câble-là fonctionne. Même chose, en ce moment, tout le monde se tape des délires en disant « Si vous voulez que votre téléphone aille vraiment très 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 vite en téléchargement, si vous avez des gros trucs à envoyer, utilisez l'Ethernet. » C'est les câbles. Parce qu'il y a des prises USB type C Ethernet. Donc, on peut brancher le câble et être directement branché sur la box avec l'iPhone. C'est fou. Mais ça, c'est des choses qu'on pouvait déjà faire avec des câbles propriétaires Apple qui coûtaient entre 30 et 80 euros. Maintenant, tout est standard. Et ça, ben, ça vient de l'Europe. Et l'Europe ne s'arrête pas là. L'Europe a décidé aussi du side-loading, qui est la pire truc qu'on pouvait faire à Apple, à savoir tout simplement un autre App Store. Et d'ailleurs, pas qu'un seul. Tous les autres App Store qu'on veut. Microsoft et Facebook ont déjà annoncé préparer des App Store pour iPhone, enfin pour Apple en général, qui vont contenir des logiciels que eux vont proposer qui ne seront pas sur l'App Store d'Apple. Donc, on va avoir dès février 2024, c'est demain hein, quand même, on va avoir une énorme explosion de propositions d'applications vérifié, normalement contrôlé, enfin on peut espérer que ce soit sérieux, et qui vont complètement libérer le marché d'Apple. Et donc les gens vont pouvoir utiliser, l'interopérabilité va commencer à apparaître, il va y avoir des applications Android compatibles, des choses comme ça, bref, beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce que je raconte, c'est pas tant la technologie et la manière qu'on a d'être prisonnier ou pas de ces choses-là. Non, non. Ce que je raconte, c'est que on s'est trompé. Et c'est là où, en fait, c'est extrêmement rafraîchissant. On s'est trompé. On pensait n'avoir aucun pouvoir. Et on voit l'Europe qui plie Apple. Mais c'est même pas qu'elle les plie. C'est qu'elle les fout sous sa botte et elle leur écrase la gueule sur le parquet. L'Europe a aucune pitié avec Apple, alors qu'Apple était, pour nous consommateurs, quelque chose de totalement inaccessible. C'était complètement fou. Apple décide d'arrêter tel produit, de relancer tel produit, d'arrêter tel service, de vendre ce service, de le faire disparaître, et puis etc. Et là, on a l'Europe qui vient et qui les plie. Pourquoi ? Parce que là où on a tout à fait raison de dire que les consommateurs n'ont aucun pouvoir par rapport aux GAFAM, aux entreprises, Microsoft et compagnie, comment ChatGPT fonctionne, comment Bing va récupérer les infos, etc. Eh bien, en fait, le citoyen que l'on est, cet autre statut qu'on a appris, qu'on nous a appris à détester, que les réseaux sociaux nous ont appris à cultiver comme méfiance, le citoyen que nous sommes, lui, a jamais eu autant de pouvoir de sa vie. C'est-à-dire les entreprises comme Apple, comme Microsoft, comme Amazon et toutes les autres dépendent du choix des citoyens. Alors je dis ça, on va pas tomber dans la politique bête et méchante, mais j'aimerais juste vous faire comprendre ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que, je sais plus, je crois que c'est Amazon ou Microsoft, avait commencé à proposer des services de vote en ligne gratuitement mis au service des différents États. C'est pas pour rien non plus qu'Apple et Google se sont immédiatement mis à développer des logiciels communs et un réseau commun pour le Covid, etc. C'est parce qu'ils veulent se mêler à la politique, c'est une forme de lobbying. Ils veulent pouvoir que la politique des nations leur doive quelque chose. Ils cherchent ce moyen-là. Et c'est de bonne guerre, parce qu'ils savent très bien que le pire ennemi qu'ils ont, c'est le politique. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on élise, je ne sais pas, Mélenchon, par exemple, parce que je trouve que c'est un bon candidat pour ça, Mélenchon, et que Mélenchon vienne et dise « Ouais, Apple, ça suffit, t'as intérêt à faire moins 30% sur tous tes produits, sinon tu vendras plus rien en France. » Peut-être même que l'Europe va dire ça. Écoutez, vos prix sont indécents, on vous refuse sur le marché européen. Ou alors, on veut que vous créiez des emplois chez nous, donc, chose que la Chine fait, hein, vous devez venir produire vos appareils chez nous. Construisez vos usines chez nous, employez des milliers de gens, sinon vous n'avez pas accès au marché. Ou alors, pour rentrer dans le marché européen, vous devez vous acquitter de telle et telle dette, ou alors vous devez répondre de telle et telle consigne écologique, etc., etc., qui sont des leviers, mais qui mettent les entreprises à genoux, littéralement. C'est vraiment complètement dingue. Si on veut maintenant, et d'ailleurs, toutes les entreprises, c'est pas pour rien qu'elles sont parties sur le 2030. Oui, neutralité carbone en 2030. Allez hop, les gars, on y va. Apple en premier. Allez, c'est parti. Microsoft aussi. Nous aussi, on sera neutre en carbone en 2030. Pourquoi ils font ça? Parce que les nations sont là et que les nations sont infiniment plus puissantes, malgré le fait que ces entreprises peuvent gagner plus d'argent parfois que ce que gagne une nation. D'accord, c'est vraiment, il y a des pays en Europe qui ont moins de PIB que ce que fait Apple en recettes par an. Donc c'est très impressionnant ce que gagne Apple. Néanmoins, à moins que Apple décide de devenir lui-même une nation, du genre employer sa propre armée, faire du lobbying, acheter des terres ou je ne sais pas, eh ben on va avoir toujours une dépendance d'Apple. Apple a besoin des marchés. Les marchés nous appartiennent. Nous pouvons tout à fait décider collectivement, à l'échelle européenne, ce qui est quand même extrêmement brutal, parce que c'est un grand terrain et c'est énormément de fric, on peut décider de plier n'importe quelle entreprise. Je pensais au vaccin pendant la période Covid. Période qui pourrait revenir bientôt, hein. Méfiez-vous, apparemment, il y a quand même une résurgence. Mais la période Covid, en fait, à un moment donné, il y avait les fabricants, AstraZeneca, etc., toute la bande, Pfizer et compagnie, qui ont fabriqué des vaccins, des candidats vaccins, comme ils disaient, et qui les ont vendus. Et alors on pourrait se dire, bah ok, ils ont annoncé les tarifs, tout le monde s'est plié. Non. Ils sont allés voir les pays les uns après les autres pour négocier. Business, tu veux combien? Mais oui, etc. Et bien, en fait, il y a un pays qui a gueulé en Europe. Je crois que c'était la Belgique ou les Pays-Bas qui ont révélé les tarifs. Et il y a un autre pays derrière qui dit « Ouais, mais ils m'ont fait payer plus cher. » Et donc, en fait, les Européens, les pays d'Europe ont mis sur la table les tarifs secrets qui étaient proposés dans les négociations. On a même les grandes big pharma là qui ont gueulé en disant « Non mais attendez, ça se fait pas, vous avez pas le droit. » L'Europe a réagi en disant « Maintenant, il n'y aura qu'une seule personne avec qui tu vas faire business, c'est moi. » Et donc, l'Europe a envoyé la consigne à tous les pays européens. Je sais, vous avez peut-être assisté vous-même à ça, mais c'est pour vous montrer la puissance. Elle a envoyé une consigne à tous les pays européens disant « Interdit d'acheter en direct, tout passe par Bibi maintenant. » Donc les pays européens, il y a l'Allemagne qui a tenté de la jouer solo, mais elle s'est fait défoncer juste derrière. Tout le monde s'est aligné l'Europe a négocié des chargements. La France était en train de d'essayer d'arnaquer l'Italie, je crois. Ils avaient volé des cargaisons. Enfin bref, c'était du délire. Et tout s'est calmé, tout s'est régulé, et on a eu les meilleurs tarifs pour tout le monde. Donc ça a été réglé. Alors après, je ne suis pas dans les détails. Est-ce que l'Italie a payé autant que l'Allemagne pour ces flacons? Je ne sais pas. Mais par contre, on a eu suffisamment de doses pour tout le monde, distribuées à l'échelle européenne, extrêmement bien synchronisées. On a eu quelques cafouillages légers, mais finalement très peu. Et on a été une merveille d'organisation. On a économisé énormément d'argent. Mais surtout, enfin, les big pharma, ils ont essayé de lutter. Et on leur a dit juste, pourquoi tu nous parles? On t'a donné les règles du jeu, c'est à toi de jouer. Tu n'es pas quelqu'un qui définit les règles du jeu. Toi, tu joues. Nous, on définit les règles. Et c'est ça, le citoyen. Le citoyen, moi, il m'intéresse beaucoup parce que Google est en train de faire quelque chose avec l'arrivée de Bard et de Gemini. Et va proposer quelque chose qui va sérieusement faire mal au SEO. Le SEO qui est une branche de laquelle, justement, enfin, tout le monde dépend de ça. Le politique, le citoyen, va juger ces choses-là. Mais par exemple, actuellement, ChatGPT, mais Bard aussi, etc., ils vont souffrir de la même chose. ChatGPT est en train de se faire allumer par plein de gens qui sont des auteurs de livres qui ont réussi à démontrer que ChatGPT avait lu leurs livres et en avait tenu compte. Les datasets qui sont utilisés pour fine-tuner ChatGPT contenaient des sources d'informations comme ça. Les gars, ils disaient « Oh, on n'a pas bien vu ce qui était passé, mais c'est possible qu'il y avait cette librairie qui est passée dedans. 11 millions de livres piratés. » Et ChatGPT, c'est goinfré de ça. 800 000 livres identifiés. Donc, ok. Alors, c'est vrai que pour le coup, ChatGPT marche extrêmement bien et est capable d'être très précis sur pas mal de choses parce qu'il a tout lu. Mais pour le coup, vu qu'il délivre une information qui ne lui appartient pas à la base, les auteurs de livres, qui sont pas très nombreux, hein, qui sont une vingtaine peut-être à l'heure actuelle à se bouger un peu, ben, ils sont en train de faire peur à ChatGPT parce que l'Europe, notamment, mais aussi d'autres conseils extrêmement importants. Les citoyens sont en train de venir voir l'entreprise OpenAI pour leur dire « Tu vas nous donner beaucoup d'argent parce que tu as exploité des données, tu n'as pas respecté les droits. » Ou alors tu vas sortir de ton dataset toutes les informations desquelles tu ne peux pas être propriétaire. On est arrivé à un point où Microsoft, par exemple, mais pas que, Adobe aussi, qui utilise une technologie qui génère automatiquement des choses et qui s'inspire de trucs qui existent, on dit à tous leurs utilisateurs qui payent un abonnement professionnel, on prend en charge les procès. D'accord ? Adobe dit, si jamais un ayant droit vient vous voir pour plagiat, on paye le procès, c'est bon. Dire, on n'est pas sur quelque chose de légal. On est sur quelque chose où ils se disent qu'ils peuvent amortir les coûts. Mais pour combien de temps? Parce que ça va s'énerver de plus en plus, parce que les États ne sont pas là pour créer un système que les entreprises peuvent utiliser en payant. On a déjà les crédits carbone qui se font de plus en plus allumer, parce que Tesla, hein, on les aime. Plus j'en découvre sur Elon Musk, plus je me rends compte que c'est un cinglé ce mec. Mais Tesla, par exemple, en tant que producteur de voitures écologiques, donc acheter une Tesla, c'est faire de l'écologie, n'est-ce pas? Ben Tesla a le droit à des crédits carbone, exactement comme tous les constructeurs automobiles et l'immobilier, etc. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de polluer à un certain niveau. Mais eux, ils polluent pas, parce que leurs usines sont propres, leurs fonctionnements sont propres, les véhicules sont propres. Donc ils ont du crédit carbone. Ils revendent, c'est leur principale source de revenus. Ils revendent ça des milliards à des entreprises extrêmement polluantes qui, pour le coup, ont le droit de polluer leur part. Sérieusement. Donc bon, voilà. Bien sûr, notre société est pervertie par les lobbyistes. J'aurais beaucoup aimé vous citer... son nom m'a échappé carrément. L'ancien ministre de l'écologie qui faisait Ushuaïa. Mais comme il est complètement accusé, cancel et compagnie, parce que c'est un foutu queutard, je peux pas vraiment le citer. Sauf que lui, il a démissionné de son poste de l'écologie en disant « Il y a trop de lobby, je ne peux rien mettre en place ». C'est vrai. Mais c'est vrai parce que les consommateurs ne disent rien. Le jour où les citoyens disent, et c'est ce qui se passe avec la jeunesse d'aujourd'hui, encore tout à l'heure j'écoutais une interview d'une jeune fille qui est au soulèvement de la terre, la notion de consommateur, ils sont en train de la faire péter à la dynamite. On est vraiment en train de rappeler à tous ces jeunes la dimension d'écologie. J'ai vu un article sur Taylor Swift, il n'y a pas longtemps, qui a commencé à militer auprès de ses fans. Je vous rappelle, au cas où vous dites « Ah, c'est mignon Taylor Swift », que Taylor Swift est actuellement la star la plus connue de tous les temps. D'accord ? Supérieure aux Beatles, supérieure également à Michael Jackson, supérieure aux Stones, supérieure à tout ce que vous voulez. C'est elle, actuellement, qui est la plus connue au monde en termes de notoriété et en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente, en termes d'influence. C'est elle. Donc, à un moment donné, elle est toute mimi, elle est toute gentille. Ça, c'est l'image de marque. Derrière, c'est une entreprise qui, dans une tournée internationale qu'elle a commencé à faire, qui s'appelle la Eras Tour, ou le Eras Tour, les airs, bref, les fans adorent, il y en a pour un bénéfice, à la fin de sa tournée qui est prévue, de 5 milliards de dollars. Ok, elle a annoncé un documentaire qui allait raconter les coulisses de sa tournée. Le documentaire vient de sortir au cinéma. C'est le plus gros lancement en termes de vente de billets. C'est le plus gros lancement de tous les temps au cinéma. D'accord ? Il n'y a aucun film qui a suscité autant d'engouement et autant de ventes de billets que ce putain de documentaire. Et je mets là-dedans Sees It quand même, qui est... Et c'est pas la catégorie documentaire, hein, c'est tous les films confondus. Films et dessins animés et tout ce qui passe au cinéma. Mais This Is It, c'est pas facile à dire. This Is It, de Michael Jackson, j'étais allé le voir, c'est sorti quelques semaines après sa mort. Et c'était le fameux concert qu'il aurait dû faire et pour lequel il est mort de fatigue ou de médicaments. Bref, ou peut-être qu'on l'a assassiné, on sait pas. Ceci étant... Donc, Taylor Swift, à l'heure actuelle, elle décide de militer pour convaincre ses fans, imaginez quand même la portée de sa voix, de voter. Notamment pour préparer un blocage au retour de Donald Trump. Voter. Donc, elle a déjà convaincu 65 000 jeunes qui se sont inscrits sur les listes et elle continue tranquillement. Elle fait ça à côté, hein, c'est pas son cœur de métier, elle fait ça juste comme ça, entre le fromage et le dessert. Et elle va sans doute avoir une influence majeure sur l'avenir des États-Unis. Donc, on est sur le retour du citoyen. Alors, espérons juste que Taylor Swift ne nous dise pas à un moment donné « Votez maintenant pour tel parti d'extrême droite » ou j'en sais rien, parce que c'est le genre de personne. C'est paradoxal, parce que si vous y réfléchissez, les gens ont une position de consommateur par rapport à Taylor Swift. C'est de la consommation. C'est vraiment de l'adoration. On ne peut pas empêcher Taylor Swift de faire ce qu'elle veut. Elle a des valeurs, c'est un produit, elle est marketée, etc. quoi. Donc on est consommateur. Et elle nous renvoie aux citoyens. Il n'y a pas qu'elle, hein, Lady Gaga aussi, etc. Mais elle nous renvoie brutalement aux citoyens en disant « la planète est en feu ». Donc on se calme avec les bénéfices, tout ça, et puis on va commencer à regarder ce qu'on peut faire. Et la nouvelle génération qui vient là aujourd'hui, elle a la tête là-dedans, c'est-à-dire que c'est de moins en moins des consommateurs. Ils en viennent à dénoncer ça avec une brutalité phénoménale. Mais vraiment, je ne sais pas, j'avais vu une émission où ils avaient invité, je crois que c'était le patron de Porsche ou quelqu'un comme ça, qui s'est fait allumer par des jeunes en pleine émission, qui était invité, qui avait le droit de parole, et les jeunes avaient zéro respect pour lui. Pour eux, il était le problème. Et lui, il disait, non, mais on est en train d'améliorer. Et il disait, greenwashing, et puis arrête tes conneries, tu vois bien. Je veux dire, la nouvelle génération qui arrive, qui a 20 ans aujourd'hui, ne pardonne rien. Et je vous raconte même pas celle d'après, qui a 10 ans maintenant, là, et qui est en train de monter aussi. Donc, c'est le grand retour du citoyen. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le retour des valeurs du citoyen. Il y a beaucoup de gens qui font des remarques et des commentaires sur le fait qu'on ne se voit plus, on ne profite plus vraiment les uns des autres, on ne se retrouve plus au bar du coin, ou on ne fait plus d'événements en ville, ce genre de choses. Et la question qui se posait, c'était pourquoi ? Pourquoi, en fait, on ne fait plus des trucs ensemble ? Genre, le banquet républicain, c'est quand même un truc... Qui appartient à la culture française, qui est rentré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO et qu'on ne fait plus du tout. En fait, le citoyen était devenu ringard dans les années 80-90 au bénéfice du consommateur. Donc les gars qui adorent la pêche et qui adorent faire la fête avec leurs copains, ils deviennent une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est Netflix, Prime Video, les consoles de jeux, TikTok, les réseaux sociaux, etc. C'est ça, nouveaux téléphones, les événements de l'année, c'est pas le mariage de la petite sœur, c'est le nouvel iPhone 15 qui sort, etc. Et je crois à un sursaut de ce côté-là. Je crois que les réseaux sociaux, justement, ne tenant plus le rôle de citoyen, c'est-à-dire me permettre d'avoir des nouvelles de mes amis, me permettre de ne pas être seul, parce que le taux de solitude des Français est quand même aux alentours de 20%, avec une croissance sur les dernières années de 5 à 6%, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se déclarent seuls et en état d'isolement dans leur vie. Un Français sur 5. Et c'est que le début, hein. On a des applications de rencontres qui commencent à faire divorcer les gens. On a un impact sur la résistance du mariage. C'est... Voilà, je veux dire, l'ultra-consommation, le fait de nous avoir réduit à un statut de consommateur et d'avoir abusé de ce statut-là, d'avoir réellement cherché et trouvé avec des neuroscientifiques, les salauds, les traîtres quand même, qui nous ont étudiés gentiment pour nous aider au début à nous améliorer, qui ont compris les leviers de dépendance, les leviers de dopamine, etc. D'ailleurs, regardez sur Arte, alors est-ce que c'est encore disponible, je ne sais pas, mais il y a toute une petite série de pastilles qui doivent faire 5 à 10 minutes, qui s'appelle Dopamine, et qui vous parle de chaque réseau social, et de comment le réseau social arrive à vous tenir. Comment ils ont mis en place des leviers pour ça, de la gamification, du plaisir. Donc, tout ça, ben aujourd'hui, on sait. La dopamine qu'on nous donne, la dépendance qu'on nous donne, le fait qu'il y ait de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de dépressifs, de plus en plus de gens atteints par tout ça, de plus en plus de personnes isolées, de plus en plus de divorces, de plus en plus d'enfants mal éduqués, dans le sens où il n'y a plus la même cellule familiale qu'avant, avec les mêmes intérêts pour les membres. Aujourd'hui, c'est pas rare de tomber sur des repas de famille où tout le monde a son smartphone. Tout le monde a un pied à l'extérieur. Les Simpsons avaient déjà fait une blague là-dessus dans les années 90, où Homer disait « je t'ai élevé seul » et le gamin disait « non, non, la télé a fait 70% du boulot ». On est élevé à la télé. C'est quoi l'éducation que la télé nous a donnée ? Les émissions jeunesse, on est là à applaudir le Club Dorothée, mais c'était quoi les valeurs du Club Dorothée ? Donc, aujourd'hui, je crois très fortement à un retour du citoyen, à un retour du vivre ensemble, à un retour de la découverte de l'autre, à un retour de la proximité. Je crois à ces projets qui peuvent revenir, je crois à ces gens qui vont commencer, et d'ailleurs c'est déjà le cas, on a une vague de retrait. C'est pas pour rien notamment que Mark Zuckerberg est en train de miser plusieurs dizaines de milliards dans le métavers. C'est parce qu'on est tous en train de se barrer joyeusement de ces réseaux sociaux. Il est en train d'essayer d'imaginer la suite, et je crois qu'il regrette un peu, parce que ça marche pas du tout, parce qu'on n'en veut pas de son métavers, on veut pas être isolé, on veut pas porter des masques à la con. Il y a quelque chose qui me gêne, moi, c'est que le Vision Pro d'Apple aurait dû être l'événement majeur, voire la célébration humaine. On est sur l'avènement des casques de réalité augmentée et mixte, en fait, et donc sur l'ouverture au monde. Mais on sent tous qu'on va nous la faire à l'envers et qu'on va se retrouver isolés chez nous. Et il y a plein de gens qui sont là, non, pas trop envie. Pas envie de tester, pas envie de connaître. Ouais, ça doit être bien fait, ok, les mouvements, tout ça, d'accord. Mais les gens, ils veulent pas ça. Les gens, ce qui leur manque le plus, je crois, hein, vous me direz, mais ce qui leur manque le plus, c'est les autres. Ce qui leur manque le plus, c'est la sensation de sécurité en étant ensemble. Ce qui leur manque le plus, c'est les moments de joie qui nous nourrissent. Les gens souffrent de cette solitude de Netflix qui nous balance des films alors qu'on est tout seul chez nous. Les films à la télévision, c'était le dimanche soir, c'était certains soirs, c'était pas tout le temps. Ça avait un côté événementiel et puis surtout, il y avait le cinéma. Aujourd'hui, on paye, alors c'est vrai, on nous le dit, hein, pour le prix d'un seul ticket de cinéma, vous avez un mois de film. C'est vrai que c'est fou en termes d'économie. Mais non seulement les films sont mal payés, c'est comme le streaming fait souffrir énormément tous les créateurs de musique parce que plus personne n'en a rien à foutre de leur musique. Ils essayent de faire des musiques aujourd'hui, les créateurs, qui rentrent dans les playlists parce que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent. Dans les playlists, genre dîner entre amis, ils essayent de concevoir vos artistes préférés, essayent de concevoir des morceaux qui rentrent dans des playlists. Il y a quelque chose qui ne va plus. On a besoin de l'autre, on veut connaître son histoire, on veut se régaler de l'autre. On veut vivre ce qu'il vit, on veut comprendre, on a besoin des autres. Bref, ce raisonnement-là, j'arrive doucement au bout, je pense pour cette fois, mais j'avais envie de vous ramener à cette notion qui m'avait heurté dans cette interview que j'ai lue ce matin, qui était de dire « Les consommateurs n'ont aucun pouvoir. C'est pas la peine de se plaindre que telle ou telle chose marche pas, que telle ou telle chose n'est pas comme vous voulez, que telle ou telle chose vous prend pour un con, vous prend trop d'argent, ou vous ponctionne, ou les séries Netflix sont moins bien, ou je sais pas quoi. C'est pas la peine de se plaindre. Vous n'avez aucun pouvoir. Aucun. Vous pouvez toujours remplir des sondages et puis faire passer des votes, liker. Allez-y, likez. Non. Les réseaux sociaux sont là pour distribuer de la publicité. C'est ça ce qui fait leur business model, c'est pas vous. Vous êtes rien. Gentiment rien, vous êtes la matière première, c'est vous qu'on vend en fait. Donc voilà, Netflix c'est pareil, ils essayent de vous retenir avec des abonnements, ils vous font des séries, j'ai vu un excellent petit documentaire fait par Adam Bros sur YouTube qui parle justement de la manière dont Netflix conçoit ses séries. Et le but c'est d'en balancer le plus possible, d'essayer de faire de l'événementiel avec tout ce qui peut l'être et d'arrêter tout ce qui a un mauvais démarrage, tout ce qui ne fonctionne pas aussi bien, tout ce qui, dans la première semaine, n'a pas suscité suffisamment d'engouement. Donc, même chose, la notion d'artiste, elle disparaît. Souvenez-vous des séries télé qui avaient une première saison qui était bof et qui, après, est devenue exceptionnelle. Souvenez-vous de ça, parce que ça, c'est du passé, c'est terminé. Le mode du financement, maintenant, c'est si tu ne fais pas un carton day one, tu disparais. Point. Et si tu fais un carton, même quand tu as prévu de faire qu'une seule saison, ben tu reviens. Squid Game, par exemple. Le gars, il avait un seul scénario pour une saison. Bon, ben, il va devoir en faire une autre. Parce que ça marche. Donc, on est dans de la consommation, on est dans des marques, on est dans des choses comme ça. Mais arrêtez de croire que qui que ce soit, on a quelque chose à faire. Votre série télé préférée, vos personnages préférés, sont tous soumis aux mêmes choses. Et puis, regardez un peu la grève des acteurs actuellement et des scénaristes pour vous rendre compte que vos acteurs de séries préférées, pour certains d'entre eux, n'ont pas assez d'argent pour avoir une mutuelle santé. mais pas seulement certains d'entre eux, il y a la moitié du casting de Orange is the New Black qui est dans ce cas-là et qui est en train de faire grève en disant on vend de l'image, on vend une bonne série, on travaille bien, on fait des super personnages et on est payé moins de 2 000 $ par mois. Quand on tourne, quoi ? Donc, le citoyen a quelque chose à dire. Le citoyen peut s'indigner. Le citoyen peut demander des comptes. Le citoyen peut choisir, et pas seulement en votant, c'est-à-dire en payant telle ou telle plateforme. « Ah, je soutiens plus Netflix. » Non, ça, on s'en fout. Netflix trouve un nouveau moyen de gagner de l'argent. Non, non. Politique. Politique. À un moment donné, il faut que vous compreniez que vous avez un rôle politique à tenir. Vous pouvez donner de l'argent à des associations qui militent pour des causes qui vous semblent justes. Vous pouvez donner cet argent. Vous aurez cette sensation très étrange de participer à changer le monde. Vous pouvez tenir des discours publics, comme on le fait déjà sur les réseaux, mais des choses plus intelligentes, plus construites, plus documentées. Vous pouvez aussi rejoindre des associations, rejoindre des groupes, participer, signer des documents, je ne sais pas. Vous pouvez être actif dans cette société. Cette société fait tout pour vous convaincre que vous ne le pouvez pas. Que vous n'êtes que des consommateurs. Cette société, je ne sais pas, Facebook par exemple, au moment où il y a eu une loi qui est sortie pour interdire le tracking, donc le fait de nous voler toutes nos données, Facebook a dit « je ne sais pas si je vais pouvoir maintenir mes services en Europe si vous nous interdisez de faire ce tracking ». Et l'Europe a répondu « ok, casse-toi ». Et Facebook a modifier ses algorithmes, c'est tout. Google, pareil. Si on a aujourd'hui un nouveau Google Analytics avec un système en cohorte pour pouvoir faire les évaluations et vous donner des chiffres et que c'est devenu beaucoup plus imprécis, c'est parce que l'Europe a dit « va te faire foutre ». Et que Google a dit « oui madame, pas de problème ». Oui, parce que l'Europe, enfin moi je le vois comme une dame vu que c'est une déesse, Europa. Donc c'est quand même balèze d'avoir un continent qui porte le nom d'une déesse. On est sur un truc bien, quoi. Et je trouve qu'elle a de la patate. Je trouve qu'elle est vraiment capable, elle, de nous défendre. Et je pense qu'il faut l'aimer. Et qu'il faut la soutenir, cette Europe. Je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'elle est capable de faire, à son pouvoir de frappe. Je pense qu'elle est profondément imparfaite et qu'elle a besoin de notre soutien pour s'améliorer encore. Pour nettoyer ses bancs. Pour trouver des nouveaux leviers. Mais l'Europe n'est pas là pour emmerder les gens. Elle nous protège, littéralement. Et elle nous garantit un mode de vie. À nous de faire le reste. Bon, ça devient un peu moralisateur. Mais c'est juste pour vous dire que... Ok, vous êtes consommateur, c'est bien. Et je comprends. Hein. Vos montres connectées, vos téléphones, les podcasts que vous écoutez, vous consommez, vous consommez, vous consommez. Mais vous êtes des... gens qui avaient du pouvoir, y compris sur les choses sur lesquelles vous pensez ne pas en avoir, comme Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, il me manque un A, je sais plus, bref, Google bien sûr. D'ailleurs, faudrait changer, c'est plus des GAFAM, hein. Amazon c'est Alphabet, Google c'est Alphabet, Facebook c'est Meta, après on a Apple, après normalement ça fait AMAM si je me souviens bien, donc voilà, les AMAM, ou les MAMA, si on les remet dans l'autre ordre, ça peut être sympa ça, les MAMA, faut craindre les MAMA, bref, les amis j'arrête là, mais je voulais juste comme ça partager ce raisonnement parce que ça m'a choqué, qu'on me rappelle que j'étais un citoyen et qu'on me rappelle le pouvoir de dingue que j'ai. Aux États-Unis, si les réseaux sociaux ont autant réussi à performer, y compris Facebook, y compris Microsoft, y compris Apple, en dehors, etc., s'ils ont autant réussi, c'est parce qu'ils ont eu le droit à 3 choses. La première, c'est qu'une loi a changé qui les autorisait à acheter d'autres entreprises. La deuxième, c'est que pour le coup, ils ont acheté toutes les entreprises qui marchaient, toutes, Et ils ont racheté aussi leurs concurrents pour les tuer et les absorber. Donc il n'y a pas pire hein, dans le principe du capitalisme. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de législation aux États-Unis qui cherche à les cadrer. Parce qu'il y avait un mouvement vraiment très pro-capitaliste qui s'est beaucoup maintenu. Et qui a créé une hégémonie culturelle phénoménale au niveau mondial. D'accord ? Il y a une hégémonie culturelle maintenant, américaine. Bon. Ben, toutes les nations ont le droit de commenter, critiquer, modifier la proposition qui est faite. Toutes. On nous a fait croire que non. Et nos politiques en premier, parce qu'ils ne voulaient pas se froisser avec les Américains. Mais l'Europe est la première, c'est pas la seule. Hein. La Chine commence à dicter ses conditions aussi, l'Inde aussi, etc. Donc je pense que l'avenir qui arrive devant nous va peut-être être l'avènement du citoyen. Je vous laisse. Bye bye.